Lise y présente Les Graciers de Kieran Millwood Hargrave, lu par Lila Tamazit. À ma mère Andrea et à toutes les femmes qui m'ont élevée. Par ordre du roi. Tout sorcier ou homme de foi qui aura renoncé à Dieu et sa parole sacrée et à sa christianité et qui se vouera au diable devra être jeté au feu et brûlé. Extrait du décret sur la sorcellerie, Trolldom au Danemark-Norvège de 1617, entré en vigueur dans le comté de Finnmark en 1620. La tempête. Vardø, comté de Finnmark, nord-est de la Norvège, 1617. La veille, ma reine avait rêvé qu'une baleine s'était échouée sur les rochers en face de chez elle. Elle descendait la falaise, marchait jusqu'à elle et, œil contre œil, enroulait ses bras autour de cette grande masse nauséabonde. Elle ne pouvait rien faire d'autre pour elle. Les hommes accouraient sur les rochers noirs, sombre procession d'insectes vifs munis de lames et de faux luisantes. La baleine n'était pas encore morte que la chaîne humaine avait déjà commencé et la découpe avec elle. La baleine se débattant et eux, visage fermé, déployés sur son corps comme un filet sur un banc de poisson. Les bras de ma reine étaient raides et tendus, car elle s'accrochait ferme, en les ouvrant tout grand. Depuis si longtemps qu'elle n'aurait su dire si son étreinte était perçue comme un réconfort ou une menace. Mais elle s'en moquait désormais, immobile, œil contre œil, sans ciller. La baleine finissait par s'immobiliser, sa respiration faiblissant à mesure qu'il hachait, sciait. Ma reine avait senti l'odeur de la graisse brûlant dans les lampes avant même que le corps ne se fige, bien avant que le brillant de l'œil collé contre le sien ne devienne terne. Elle s'enfonçait au milieu des rochers, jusqu'au fond de la mer. Le ciel au-dessus d'elle était noir. Un ciel sans lune criblé d'étoiles. Elle se noyait. Elle s'était réveillée en aspirant une grande bouffée d'air, les narines et la gorge encore piquantes de fumée. Le goût de la graisse animale imprégnait sa langue, un goût persistant, impossible à effacer. Chapitre 1. La tempête arrive en un claquement de doigts. C'est ainsi qu'ils en parleront, des mois, des années après, quand cela aura cessé de n'être qu'une douleur derrière les yeux et une boule dans la gorge. Quand ils pourront enfin raconter. Mais même à ce moment-là, les mots ne diront pas comment les choses se sont réellement passées. Car les mots ne sont pas toujours fiables. Ils donnent forme trop facilement, trop superficiellement. Et ce que ma reine avait vu ne renfermait aucune légèreté, aucune grâce. Cet après-midi-là, leur meilleur voile était allé comme un plaid sur ses genoux. Mama et Dina en tiennent chacun un coin. Leurs doigts plus petits, plus délicats, piquent des points plus petits, plus délicats dans le tissu déchiré par le vent, tandis qu'elles-mêmes rapiècent les parties trouées par les cordes du mât. Près du feu sèche un fagot de bruyère blanche que son frère Eric a coupé sur la petite montagne, sur le continent. Demain, après, Mama lui en donnera 3 poignées pour son oreiller. Ma reine séparera les branches, les enfouira dans sa taie avec la terre et tout le reste, presque écœurée par l'entêtant parfum de miel après des mois passés à ne sentir que l'âcre odeur du sommeil et celle de ses cheveux sales. Elle mordra cet oreiller et hurlera, jusqu'à ce que ses poumons sifflent à cause des effluves sucrés et piquants. Quelque chose attire son regard vers la fenêtre. Est-ce un oiseau? Corps noir sur fond noir? Est-ce un bruit? Elle se lève pour s'étirer et contempler la baie, cette ligne grise monotone qui précède le large. Les crêtes des vagues scintillent comme des bris de verre. Les bateaux, bercés mollement, semblent suspendus par leurs 2 petites lumières, une à la proue, une à la poupe, à peine visible. Elle pense à papa et Eric. Croit pouvoir distinguer leur bateau et leur voile, leur deuxième meilleure voile tendue sur le mât, et les coups de rame qu'ils donnent par saccade. Leur dos tourné vers l'horizon, derrière lequel rôde ce soleil qui restera encore caché un mois, puis un autre. Eux doivent voir les lueurs immobiles qui brillent derrière les fenêtres sans rideaux des maisons de Vardeux, perdues au milieu d'une mer de terre. Ils ont déjà dépassé l'île d'Orneyua, ont presque atteint l'endroit où le banc de poissons a été repéré plus tôt, avant qu'une baleine ne les arrête en pleine action. « Les poissons ne seront plus là », avait dit papa. « Mama a grand-peur des baleines. Même avec les bras d'Eric, elle aura déjà tout englouti le temps que nous arrivions là-bas. » Eric avait simplement répondu en baissant la tête pour que Mama l'embrasse et que sa femme Dina presse son pouce comme son front pour tirer le fil imaginaire qui, comme disent les Samis, ramène les hommes partis en mer. Pendant quelques instants, la main d'Eric s'était posée sur son ventre, accentuant la courbe qui se dessinait sous sa tunique en maille. Dina avait repoussé sa main, mais gentiment. « Tu vas le faire venir trop tôt, laisse-le. » Ma reine regrettera de ne pas s'être levée ce jour-là, pour les embrasser tous les deux sur leurs joues rêches. Elle regrettera de ne pas les avoir regardés partir, vêtus de leur peau de phoque, son père marchant d'un pas vif, Eric derrière, à la traîne. Elle regrettera de n'avoir rien ressenti en les voyant partir, si ce n'est la joie de se retrouver seule avec sa mère et Dina, entre femmes. Entre femmes, car à 20 ans, et demandée pour la première fois en mariage 3 semaines plus tôt, ma reine se considérait enfin comme une femme. Dag Björnsson aménageait une maison pour eux, dans le deuxième hangar à bateau de son père. La maison devait être prête d'ici à la fin de l'hiver, et le mariage pourrait avoir lieu. Il y aurait à l'intérieur une cheminée, une vraie, lui avait-il dit, son souffle chaud dans l'oreille de ma reine. Et un garde-manger séparé, pour ne pas être obligé de traverser la maison, la hache à la main, comme papa le faisait. L'éclat redoutable de la lame, même entre les mains soigneuses de papa, lui faisait monter la nausée. Dag le savait, et l'avait pris en considération. Dag était blond comme sa mère, et avait les traits fins. Trop fin au dire des autres hommes. Mais ma reine s'en moquait. Comme elle se moquait que sa grande bouche lui frôle le cou tandis qu'il lui parlait du drap qu'elle allait tisser pour le lit qu'il leur construirait. Et même si elle n'était parcourue d'aucun frisson lorsque sa main hésitante, trop délicate et placée trop haut, lui caressait le dos à travers sa robe d'hiver marine, le simple fait d'imaginer que cette maison serait bientôt à elle et cette cheminée et ce lit lui procurait des sensations dans le bas du ventre. La nuit, elle posait ses mains là où s'était diffusée cette douce chaleur, ses doigts froids comme des barreaux aussi raides que s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Même Eric et Dina ne possèdent pas leur propre maison. Ils habitent dans la petite dépendance que leur père et Eric ont clouée au mur extérieur, à l'arrière de la maison. Leur lit occupe toute la largeur de la pièce, collée à celui de ma reine de l'autre côté de la paroi. Les premières nuits, ma reine cachait sa tête dans ses bras pour ne pas les entendre, le visage enfoui dans le matelas en foin à l'odeur poussiéreuse. Mais aucun bruit n'avait jamais filtré, pas même celui de leur respiration. On aurait cru à un miracle lorsque le ventre de Dina avait commencé à grossir. Le bébé devait arriver juste à la fin de l'hiver. Ils partageraient alors ce lit exigu à trois. Elle se dira après coup qu'elle aurait peut-être dû regarder Dag partir aussi. Mais au lieu de le regarder, elle était allée chercher la voile abîmée, l'avait déployée sur leurs genoux et n'avait plus levé les yeux jusqu'à ce que le chant de l'oiseau, un autre bruit ou peut-être un changement dans l'atmosphère l'appelle à se lever et à aller regarder à la fenêtre les lumières bercées par la mer noire. Ses bras se couvrent de chair de poule. Elle joint ses doigts calleux à cause des aiguilles et les glisse à l'intérieur de sa manche en laine où ses poils se sont dressés et sa peau s'est tendue. Les rames des bateaux s'activent toujours, dessinant une trajectoire régulière sous cette lumière incertaine tandis que les lanternes vacillent. Et tout à coup, la mer s'élève. Le ciel s'abat. Des éclairs aux reflets verts jaillissent partout. Les ténèbres se figent sous leur clarté terrible, instantanée.